Chers amis auditeurs, un chaleureux bonsoir. Après 20 mois d'interruption, l'émission Résistance en direct ressuscite. Elle sera bimensuelle, en tout cas jusqu'à la fin de cette année, bien qu'elle eût amplement de quoi nourrir une chronique hebdomadaire. L'alternance devrait être assurée par une émission tout aussi importante puisqu'elle traitera des réfugiés en Suisse. Résistance en direct, rappelons-le, est la seule émission de Suisse en langue française qui traite de la répression, à savoir de ses quatre tentacules, l'armée, la police, les tribunaux, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire, et la prison. Quatre postes qui obèrent une fiscalité déjà écrasante, qui empêche l'épanouissement de nos sociétés et qui écrase définitivement ceux qu'ils condamnent. Les exemples foisonnent qui nous permettront de vous convaincre tout au long de nos émissions si vous voulez bien nous accompagner sur le chemin. Il nous tient également à cœur de parler des cas douloureux de toutes les familles en Suisse et à l'étranger dont un des membres est prisonnier ici au mépris même du code de procédure pénale et du code pénal. Car bien que nous soyons opposés au concept même de prison, la première remarque qu'il nous faut formuler est que le pouvoir judiciaire ne respecte pas ses propres lois ou qu'il les applique avec une rigueur où transparaissent racisme et haine à l'égard de l'accusé. Que les familles concernées qui le peuvent viennent ici exprimer leur grief au système afin que les naïfs qui croient encore en un état juste parce qu'ils confondent justice et pouvoir judiciaire soient enfin persuadés que nos institutions dites démocratiques ne sont que simulacres, illusions, duperies. Eh bien, commençons par la duperie suprême qui existe depuis des temps immémoriaux mais qui n'est point une fatalité et qu'il faut abattre, l'armée. Une fraction non négligeable de citoyens les plus évolués, beaucoup de jeunes, vomissent cette odieuse machine à gaspiller, polluer, tuer, endoctriner, crétiniser. L'armée, tout comme la police, ne peut séduire que les têtes brûlées, les paresseux en mal de violente exaltation, pouvant sans risque pénal satisfaire leurs dangereux fantasmes. Souvenons-nous de quelques méfaits de l'armée en temps de paix. 300 hectares de forêt brûlée au Liechtenstein il y a 3 ans. Une usine et un hangar de stockage incendiés à Villeneuve il y a 2 ans. Chaque année, entre 10 et 20 morts en exercice. La condamnation des objecteurs de conscience et des réfractaires défendant la dignité de l'homme, ces philosophes de l'action, fait de la Suisse, avec Chypre et la Turquie, le dernier pays d'Europe occidentale à ne pas avoir de statut pour les fleurons de sa jeunesse. Même la Pologne a un statut pour eux. Nous venons de côtoyer ces dernières semaines des énergumènes qui fêtaient le 50e anniversaire de la mobilisation des troupes armées de la période 1939-45. Aujourd'hui, vieillards Kakoshim, valétudinaires, égrottants et même grabataires, ils nous imposaient dans un ultime spasme de verdeur leur vieille ritournelle, persuadés que l'intimidation militaire avait joué son rôle. Ignorent-ils que les aboiements craintifs d'un caniche abricot ou d'un roquet ont toujours laissé un gros chien indifférent et que celui-ci pourrait le faire taire d'un coup de patte. Que de propos violents ont été tenus par ceux qui sont au pouvoir contre les militants pour une Suisse sans armée. Bien peu sur deux, nos hommes d'État. Citons les accès de rage du colonel Deniker et les injures du conseiller d'État genevois Wellhauser, le malotru, qui, sous l'influence de l'alcool, a honteusement failli à son devoir de réserve en menaçant et injuriant un courageux membre du groupement pour une Suisse sans armée il y a 3 semaines environ. Le chef de toutes ces ridicules commémorations, Willigert, conseiller fédéral, s'est entretenu la semaine passée avec Jean-Pierre Chevènement, ministre français de la guerre, pardon, de la défense évidemment. Or, ce sinistre coco socialiste s'est permis de montrer sa crainte face à la montée en Suisse de l'esprit antimilitariste et à la popularité grandissante du groupement pour une Suisse sans armée. Willigert l'a tranquillisé sur ce point. Mais attention, quand un infâme socialo-bureaucrate se mêle des affaires des autres parce qu'il a peur des conséquences de ce mouvement pacifiste en France, c'est qu'il compte sur les armes pour l'étouffer en cas de succès spectaculaire. Le terrorisme d'État français a déjà fait l'objet d'un ou deux ouvrages littéraires. L'étonnant est qu'un socialiste qui a toujours les mots de paix, fraternité sur les lèvres puisse avoir peur du groupement pour une Suisse sans armée. Remarquons que le gouvernement socialiste actuel et toute sa mitrandrie déploient des efforts considérables pour promouvoir son industrie de l'armement et ses ventes d'armes. Et ces mêmes truands, absurdes émanations du peuple, osent prétendre que la drogue est le pire des fléaux. Mitterrand et ses guignols ont plus de morts sur la conscience que n'importe quel caïd de l'héroïne. Ne citons que le conflit irano-irakien, copieusement alimenté en engins de mort français. Amis auditeurs, proclamez-le autour de vous. Dites non à l'armée. Refusez l'idée d'une défense armée. Cette image néfaste pour la santé spirituelle, cet argument abusivement sécuritaire. Le vote à ce sujet aura lieu à la fin du mois de novembre de cette année. Mobilisez-vous pour que dans 50 ans, une autre mob honorable fête son jubilé. Au cas où l'un d'entre vous, chers auditeurs de Radio Acidule sur 102.8 MHz, concevrait encore quelques doutes sur l'état de réelle déficience des cerveaux militaires, qu'il se laisse convaincre par cette petite anecdote. Il y a quelques années, j'avais en main une série de photographies aériennes qui me facilitaient le travail d'approche synoptique d'un terrain. Il s'agissait de la région de Payerne. Sur l'une d'elles, je remarquais aussitôt une suite de petits carrés et rectangles blancs situés dans la zone de l'aérodrome militaire. Je constatais que les installations et une partie de la piste étaient bel et bien caviardées, mais en blanc. Histoire d'attirer l'attention, sans doute. Les hauts faits de l'administration militaire constituent un ensemble tragico-humoristique d'historiettes de fous. Oh, combien plus grave est la condamnation à 18 ans de réclusion du colonel Jean Maire, qu'on a traîné dans la boue, victime d'un abominable montage politico-judiciaire dont l'artisan principal fut l'odieux et antipathique conseiller fédéral Kurt Furgler, qui a entretenu dans l'opinion publique, par le truchement des médias dévoués à l'autorité et manipulables à souhait, la version de la culpabilité anticipée du colonel. Le pseudo-délit portait sur des documents obsolètes, relevant du secret de Polichinelle, et du reste prêts à passer dans le domaine public. Nous savons que cette affaire a permis l'évasion de réels secrets militaires. Remarquez que je ne puis prononcer ces mots sans esquisser un sourire. En substituant au vrai coupable un bouc émissaire. Mais si vous voulez connaître la vérité sur cette affaire, impossible. Tous les dossiers relèvent du secret militaire, toujours reconduits arbitrairement par peur des dégâts qu'occasionnerait la publication des faits. Bref, la transparence. Et dire que le nouvel ambassadeur de Suisse à Washington, Édouard Brunner, ex-secrétaire itinérant commis aux affaires délicates avec l'étranger, le hâbleur de notre diplomatie, qui a toujours brillamment disserté pour ne rien dire, parlait de glasnost helvétique à ses interlocuteurs américains. Voyez-vous, aimables auditeurs, c'est à ce genre d'ahurie que l'on confie notre diplomatie, à ces gens, à ces as de l'immobilisme qui jouent les agités, promus par leur père ambassadeur de la sottise helvétisée. Le système policier auquel, hélas, une grande partie d'entre vous adhère encore, sera passé au peigne fin dans nos prochaines émissions. Nous citerons tout de même aujourd'hui le cas de ces deux garçons de 15 et 16 ans maltraités par la gendarmerie genevoise parce qu'ils n'avaient pas sous la main les pièces idoines d'identité. Arabes de surcroît, ils n'avaient aucune chance de s'en sortir indemnes. Je connais un ou deux de ces gendarmes bruts humanoïdes, commis à la gare de Genève. Les yeux porcins, une tête à puits des pieds, une panse de gorille. Quand ils n'éructent pas, c'est pour vous insulter. D'authentiques tueurs, mais il y a aussi des blancs-becs qui veulent jouer les Rambo, qui ont rempli en toute hâte la feuille d'engagement à la gendarmerie ou à la police secrète d'État. Essayez au fond de traduire ça en allemand, ça fait « Geheime Staatspolizei ». Après avoir vu un épisode de Miami Vice. Vous savez, amis auditeurs, c'est là-dessus que comptent les ministres concernés pour le recrutement. Aux USA et en France, les films qui revalorisent les professions en relation avec la répression sont subventionnés. Alors on y ajoute un sous-lieutenant café au lait pour faire bon poids et montrer que les anciens esclaves valent bien les plus tarés des fils de Tulé. J'ai peine à comprendre que les Noirs, qui ont eu tant de peine à reconquérir leurs droits, se prêtent à ce jeu bassement vénal. Ne nous y trompons pas, de la part du pouvoir, il ne s'agit pas d'ouverture d'esprit, mais d'une mesquine arithmétique propagandiste. À Lausanne, où le chef des flics, Emery, fief et coquin, psychopathe exemplaire, cherche l'affrontement par provocation en échauffant ses ouailles contre les jeunes et les promeneurs nocturnes, on rencontre quelquefois un splendide spécimen de Nubien croisé ayant succombé aux alléchantes propositions pécuniaires du vieillard hystérique et chenu de la caserne du Flon, qui, rappelons-le, nous a coûté, habitants de Lausanne, 40 millions de francs. Emmerich, les caractérologues Viola et Kretschmer eussent qualifié d'asthénique émotif actif primaire, est un aigri qui vieillit mal et qui souhaite le conflit entre la police et la population, ou du moins partie d'entre elles. C'est un épouvantail partisan de l'intimidation et de la terreur. Encore heureux que celle-ci soit limitée par la démission de quelques flics qui ne peuvent plus supporter. Et oui, ça arrive. Il est humain de se tromper. Et pour ceux qui n'auraient pas compris, ajoutons qu'il est diabolique de persévérer. Voyons ce que nous réserve aujourd'hui la troisième tentacule de la bête, le pouvoir judiciaire. Dans les cantons de Vaud et Genève, c'est le haro sur les justiciables malades du sida. Le suprême aigri Schwenter et le cadavérique Corbeau, tous deux respectivement procureurs vaudois et genevois, sont pour le maintien en prison des toxicomanes malades. Confortés dans leur hystérie répressive par les chefs de département respectifs, Leuba et Ziegler, le premier vicieux, l'autre peureux, ils desservent notre ensemble social, car ils cultivent un potentiel de danger, de superstition et de haine qui vont à l'encontre d'une solution satisfaisante. Au fond, souvenez-vous, Sandy, atteinte du sida et enfermée à Indelbank, à qui on a fait miroiter une possibilité de mourir extramuros, est toujours en prison. Le sournois belâtre Pedrazzini, quoique trop empâté, ce chef des pénitenciers vaudois qui nous est venu du Tessin, encensé par les journaleux de la grande presse, n'a absolument rien fait pour améliorer les derniers jours de la malheureuse. « Il ne faut pas que cela devienne une habitude, » répète-t-il après son maître Leuba. « Il faut protéger la société, » annonce-t-il, comme si Sandy était Satan personnifié. Et voilà, cet imposant imbécile de 200 livres poursuivra sa carrière de médiocre jusqu'à 65 ans, date à laquelle il fera valoir ses droits à la retraite. Amis auditeurs, nous ne pouvons rester indifférents face à tant d'incurie, de méchanceté. Tout cela consommant énormément d'argent en pure perte. Ces gros porcs qui pontifient avec arrogance, nous les devons déchoir. Ils sucent la sève de nos espérances en une société plus fraternelle. Vous saurez, amis fidèles de Radio Acidule 102.8 MHz, que l'abus de l'incarcération préventive se pratique toujours aussi allègrement. On a vu des détentions préventives jusqu'à 5 ans. Où est la prompte et bonne justice ? Sans cautionner le système, nous dirons qu'une affaire ne doit rester injugée au-delà de 6 mois. Si le pouvoir judiciaire veut sévir, eh bien qu'il se donne les moyens d'honorer sa propre loi, qu'il fasse diligence lors de l'instruction et qu'on en finisse. Au-delà de 6 mois, un inculpé non jugé doit être libéré. Sinon, quelle différence avec les dictatures tant décriées par notre soi-disant démocratie ? À Chandelon, prison de Genève, au moins 10% des prisonniers le sont abusivement. À cet égard, l'État a dû dépenser des centaines de milliers de francs pour dommages et intérêts aux inculpés libérés. Si les juges étaient contraints de participer aux frais d'indemnité des inculpés, ils dispenseraient les ordres d'écrou avec plus de modération. Et c'est à nous, citoyens, amis auditeurs, de limiter leurs exorbitants pouvoirs. On reparle beaucoup ces temps du cartel de Medellín, mais je vais vous en parler dans un instant, un peu de musique.
Aux eaux blanco, à la couleur de l'automne, aux eaux blanco, à de la peur qui résonne, sur le sable ensanglanté par les taureaux, dans l'arène vient de tomber un torero. Venu mourir pour des bravos. Les gens crient et les gens pleurent autour de lui. Et la feria est devenue tragédie. Avispado, toro blessé. Avispado, tu as lutté. Avispado, tu as frappé. C'est un dieu qui vient de tomber à genoux, un homme que la mort suivait un peu partout.
On reparle beaucoup, disais-je, ces temps du cartel de Medellín, en l'accusant de tous les maux de notre civilisation. Il tue des magistrats, des politiciens qui s'opposent à leur action. Mais il est infantile de limiter son indignation à ces quelques exécutions. Et analysons. Que font les États-Unis d'Amérique depuis qu'ils sont en perte d'influence auprès des pays d'Amérique latine, leur quasi-colonie, sinon de jure, du moins de facto economico? Ils ont fait assassiner les dirigeants locaux qui n'obtempéraient pas à leur politique. Le cas le plus évocateur est l'installation de Pinochet après l'assassinat d'Allende. Mais aujourd'hui, pour mieux maîtriser une partie de l'Amérique latine, les Américains jouent les fiers à bras et les tuteurs des gouvernements centristes ou de centre-gauche en leur fournissant un appui en armes, matériels et conseillers tueurs afin de liquider et d'éradiquer la culture de l'arbre à coca ou tout le trafic qui en découle. Mais attention, tout cela après avoir, par le biais du colonel North de la CIA, importé dans leur pays des dizaines de tonnes de cocaïne embarquées nuitamment sur un aérodrome du Honduras près de Tegucigalpa. L'avion, gros transporteur, venait avec des armes pour la guérilla de la Contra et repartait avec des caisses de cocaïne acheminées aux États-Unis, où les destinataires, complices de North, les faisaient disparaître rapidement en les distribuant tous azimuts sur le marché américain. L'argent allait alimenter la formidable caisse noire de la plus grande agence du crime d'État organisée et légalisée, la CIA. Car une grande partie des activités du réseau n'étant pas budgétée par le Trésor, et on le comprend, il faut bien trouver l'argent quelque part. L'affaire de l'Iron Gate n'a fait qu'effleurer le vrai problème et le colonel North a dû cesser ses activités qui devenaient trop voyantes, trafic d'armes et de cocaïne. Mais comme l'État ne peut entièrement désavouer ses propres sbires, le jugement a naturellement passé sous silence, ou plutôt n'a même pas tenté de faire la lumière sur un aspect abject des activités du bras armé des États-Unis d'Amérique. Gouvernement et pouvoir judiciaire ont tout de même décidé de mettre un frein momentané à ce genre de source de revenus, car l'opinion publique estime que les problèmes sociaux causés par la consommation de cocaïne et de ses succédanés sont alarmants. Il en résulte les conséquences dont nous avons connaissance aujourd'hui. Pour redorer son blason, les USA jouent les chevaliers cherchant à abattre le grand méchant loup. Mais qu'ils résolvent le problème chez eux et ne viennent pas s'immiscer dans les affaires des Sud-Américains. Or, ce n'est pas qu'une immixtion dictée par de bons sentiments. Ils obligent les dirigeants colombiens, en l'occurrence, à extrader les Colombiens qui auraient eu affaire avec les juges américains, alors même que ces accusés se trouvent chez eux. Voilà un comportement de maître à esclave. Voilà une nouvelle forme du colonialisme. Car les États-Unis ne peuvent se résoudre à accepter une autre vue des choses économiques ou idéologiques que celle qu'ils se sentent capables de maîtriser. Alors, on forme des tueurs, on fusille les paysans, on incendie la forêt sous prétexte qu'elle est le siège des laboratoires et que des plantations y sont camouflées. Et quand les trafiquants se défendent, on crie « Oh, assassin !» Sachez donc que le gouvernement péruvien du socialiste Garcia, et oui, encore un, a déjà assassiné 1000 paysans et combattants du Sentier Lumineux ces deux dernières semaines. Ils le font grâce à la manne américaine et utilisent des hélicoptères soviétiques blindés. Les trafiquants de cocaïne défendent les paysans et collaborent avec le Sentier Lumineux, car les vrais socialistes sont sur le terrain et non pas au gouvernement ou dans les universités devant des cafés crèmes à se gargariser des textes de maîtres à penser, prêts à guetter l'assiette au beurre, où ils continueront à parler au nom de Marx et des vieux barbons. Soutenir le cartel de Medellín, c'est refuser le néocolonialisme américain avec son cortège de mainmise. C'est aussi affirmer une volonté de changer les esprits face à la cocaïne. Les cartellistes cherchent à dialoguer avec les autorités de leur pays. Cela est une marque de bonne volonté et non pas une preuve de faiblesse, comme le postulent les minables journaleux prisonniers des directives de leur rédacteur en chef. Être pour une politique de répression de toute forme de produits dont les drogues, c'est encourager l'illégalité et les crimes de sang. En abolissant la prohibition, on casse les prix et on contrôle mieux le marché. Or, magistrats et politiciens et policiers, en souhaitant maintenir les interdits, ont une attitude éminemment suspecte. Du reste, nombre d'entre eux ont des intérêts dans un trafic de drogue illégal, car ils en tirent des bénéfices considérables, tout en condamnant les opérateurs, ce qui maintient leur crédit et leur dignité auprès de l'opinion publique. Mais depuis quelques années, ces gens de l'autorité n'ont même plus besoin de recourir à de discrètes précautions. Il leur suffit d'invoquer le prétexte de la nécessité d'une compromission de taupe avec le milieu du trafic afin de combattre les réseaux coupables. Et c'est ainsi qu'on voit le conseiller Lebas et l'ex-procureur Willyheim couvrir Paul-Henri Charlier, trafiquant d'héroïne, dont ils ont organisé et protégé la fuite hors de Suisse. Comme Heim prenait sa retraite, ce fut à Jean-Marc Schwenter, actuel procureur vaudois, de reprendre l'affaire Charlier à son compte afin de sauver les apparences du pouvoir judiciaire et de condamner par contumace Charlier à 18 ans de réclusion. Hélas, combien de citoyens ont été dupes de cette comédie ? Et Lebas sévit toujours. La seule chose que j'ignore est la somme qu'ont touché Lebas et Heim dans cette odieuse tractation. La semaine passée à Neuchâtel a eu lieu le procès d'une taupe doublée d'un escroc. Le personnage, M.A., ami de Charlier, a été condamné à 15 mois de prison pour escroquerie et a été lavé de toute peine quant à son trafic. Le procureur Thierry Béguin admet qu'il faille recourir à ces gens-là pour détruire un réseau. Mais Thierry, toi qui admets le renoncement de l'État à requérir des finances compensatoires sur la drogue saisie, continue sur ta bonne lancée et renonce à requérir de lourdes peines contre les trafiquants, puisque ton collègue Rudolf Gerber a été blanchi et qu'Elisabeth Kopp le sera sans doute aussi. Trêve d'hypocrisie, ne sommes-nous pas tous dans une grande famille ? Invitons aussi le procureur zurichois Gasser à se consoler des 16 millions de francs remis récemment au pouvoir judiciaire du pays où a été jugé et condamné le trafiquant et d'où il est du reste ressortissant. Tu aurais bien aimé le garder, cet argent, même issu du trafic de drogue, n'est-ce pas, Gasser ? Toi qui as protégé tant de caïds turcs à Zurich. Pour toi aussi, bas les masques. Brève nouvelle sur la prison. Clotty, le directeur des EPO, a récupéré son permis de conduire qui lui avait été une fois de plus retiré pour 2 mois à cause d'une conduite en état d'ébriété. C'est bien vrai, l'alcool est pire que la drogue. Chers amis auditeurs, si vous n'avez pas encore visité l'exposition du peintre Angelo Donadoni à la galerie 3B, au chemin Maillefer, au Mont-sur-Lausanne, vous pourrez l'admirer du 3 au 31 octobre 89 à la galerie Celano, 24 avenue Piquet de Rochemont à Genève. Angelo Donadoni, cet homme de grande valeur, sain et serein, un passé de braqueur que toutes les polices rêvaient de tuer, est peut-être condamné à perpétuité. Il va aussi prochainement éditer son livre « La part du destin ». Aujourd'hui fut l'occasion d'un grand tour d'horizon. Chers amis auditeurs, je vous remercie de votre intérêt et à dans 15 jours pour une nouvelle résistance en direct. auditeurs, si vous désirez entrer en contact avec l'Association de défense des prisonniers de Suisse, écrivez à la boîte postale 129 1000 Lausanne 17. ADPS, boîte postale 129 1000 Lausanne 17.
N'est pas de ton devoir!